Chapitre 11. Impertinente incontinence. Mercredi, 16 août 2000, 19h15, camp de la presqu'île sauvage, île de Mornessay. Le reste de la soirée passa très vite. La douche, froide comme d'habitude. Selon les jours, je ressortais soit avec des fringues mouillées, parce qu'accrochées trop près du jet, soit des fringues sales, parce que tombées par terre. Parfois les deux. Aujourd'hui, mon short et mon t-shirt n'étaient qu'humides. Le dîner fut un peu moins immangeable que les autres jours. Peut-être parce que deux filles sur les cinq du camp faisaient partie de l'équipe. Les pommes de terre du hachis parmentier étaient même presque cuites. Puis la veillée. Veillée libre aujourd'hui. Armand vint me chercher pour faire un tarot. Quand je lui dis que j'allais me coucher, il me regarda avec ses yeux ronds de hibou. « À 9h15 ?» Je restais énigmatique, à la fois pour qu'il me foute la paix et tout de même un peu pour tester sur lui ce parfum de mystère que j'espérais dégager. « Faut que je fasse le point, Armand. Excuse-moi. »«
Le point ? Sur quoi ?
T'as une touche ?»« J'en suis plus là, Armand. Il m'est arrivé un truc incroyable ce soir, un truc de dingue. Alors il faut que je mette de l'ordre dans ma tête, que je monte un plan. »
« Un plan ?»
J'avais connu Armand plus doué en conversation. C'était la preuve que je l'avais attrapé à mon hameçon. « Oui, un plan. D'ailleurs, je vais sûrement avoir besoin de toi. »«
Sans problème, »
répondit sobrement Armand, avant d'ajouter « Je vais en profiter pour draguer un peu. »«
Vanessa m'a l'air chaude à point. Je fonce. Surtout s'il faut que je m'occupe de toi les prochains jours. »
Armand était persuadé que je le baratinais. J'adorais. Il allait voir quand j'allais lui déballer mon histoire demain matin si je bluffais. Armand me laissa. Tous les autres étaient répartis en petits groupes. Certains discutaient, d'autres chantaient autour d'une guitare, un troisième groupe jouait au foot. J'étais bien, seul. Je pris le temps de coiffer mes cheveux raides, un peu trop longs, pas assez pour paraître vraiment rebelle, de me brosser les dents, d'enfiler un t-shirt sec. Puis, seul, j'entrais sous le marabout où nous étions 12 à nous entasser pour dormir. Une grande tente divisée en deux par un rideau, 7 gars d'un côté et 5 filles de l'autre. Je m'enfonçais dans mon duvet pour ordonner mes pensées. Je ressentais un bien-être profond. Je ne l'associais pas directement au fait que mon père soit vivant. Une euphorie face à la résurrection d'un être cher que l'on a tant aimé, que l'on croyait disparu et que l'on retrouve. Non, ce n'était pas ce sentiment qui m'habitait. Mon père, je gardais simplement de lui son visage en mémoire et quelques rares flashs. Rien ne pouvait me faire dire que j'aimais mon père. Était-ce monstrueux ou non de penser cela? Me mentais-je encore en pensant cela? Je n'avais pas la réponse. Je constatais seulement que ce sentiment d'amour perdu puis rendu n'était pas celui qui dominait. Ce qui dominait, c'était la logique absolue d'un enchaînement d'événements qui confirmait mes intuitions. Chacune de mes suppositions tenait du délire, du rêve, du fantasme. Et pourtant, elle se révélait vraie. C'est cette évidence qui m'emplissait. J'avais toujours eu raison. Cette certitude me gonflait d'une force incroyable. Je la sentais pénétrer en moi. Une impression de supériorité sur tous les autres garçons et filles de ce camp. Déjà, mon statut d'orphelin me plaçait au-dessus de la mêlée. Mais là, ça dépassait tout ce que j'espérais. Armand, son tarot et ses plans amoureux minables, Madia et sa petite fauche de lunettes de soleil ou autre connerie dans les magasins de souvenirs du port, le foot et les vannes vaseuses, elles me semblaient tellement mesquines, les préoccupations des autres jeunes du camp. Tellement limitées et prévisibles, leurs ambitions. Ils en étaient encore à discuter des derniers films gore qui avaient cartonné. Promenons-nous dans les bois, Blair Witch. C'était fini pour moi. Je n'épiloguais plus sur les films à frissons pour ados en manque de sensations. J'étais dans le film. J'en étais le héros. Une chance. C'était exactement ce que je pensais. Une chance. Comme un ado qui découvre qu'il est le plus doué de sa génération pour jouer de la musique, taper dans un ballon ou danser comme un dieu. Un tel ado est certain de ne jamais finir comme les autres, parmi le troupeau. Quel miracle quand on a 16 ans. Avoir la certitude que là où on ira, on sera le seul. Les 11 autres arrivèrent pour se coucher, filles et gars chacun de leur côté. Je fis immédiatement semblant de dormir. J'étais un champion à ce jeu-là, depuis l'âge de 6 ans. Je me mettais en apnée dans le duvet, je pouvais tenir des heures. Respiration ralentie. Le corps qui se soulève et se baisse, qui se retourne de temps en temps en grognant. Mais bien éveillé aux aguets. ma spécialité.
« Il pionce déjà, le fils à papa ?» C'était la voix de Madia. Dès que les monos étaient sortis, elle quittait le dortoir des filles pour venir chez les garçons s'installer sur un lit vide. Pas pour draguer. Tout le camp était au courant qu'elle sortait avec un gars de 18 ans qui l'attendait dans son quartier, au Château Blanc, dans la banlieue de Rouen. Mais elle disait préférer les conversations des garçons aux conneries des filles. Madia, la femelle alpha. La chef de meute au sein de notre communauté. La générale en chef de la chambrée. Le fils à papa. Je jubilais. Quand elle allait savoir, Madi, sa banlieue, son foyer, ses frères en tôle, ça pèserait pas lourd comme déterminisme familial face à mon destin. Le rituel classique commença. Le concours de paix, les simulations d'orgasme, les vannes. Arrête de te masturber, Dave, tu fais un trou au matelas. Petit à petit s'installaient les conversations plus profondes. C'était la voix de David. Putain, elle a quand même une sacrée paire de nichons, la Stéphanie. J'arrêtais pas de bander sur le bateau. En plus, ils sont vachement fermes, fit la voix d'Armand. Comment tu sais? Ben, je les ai touchés, tu parles. Éclat de rire général dans toute la tente marabout. Même moi, j'avais aussi appris à rire en apnée sous le duvet. Tu les as touchés? Demanda Kevin. Ouais, fit Armand. Enfin, presque, je les ai frôlés. Comme si j'avais pas fait gaffe. J'ai juste mis ma main et j'ai dit pardon. Silence. Et dire que ces crétins étaient en train de gober tout ce qu'inventait Armand. Ces débiles n'avaient toujours pas compris son jeu. C'est vrai? Fit l'un d'eux. Johan, sans doute. Ouais, continua Armand. Je te dis, ferme comme des petits melons.
C'est peut-être des faux?
Dit une voix que je reconnus pour être celle d'Hugo.
Des nénés en plastique?
En silicone, crétin,
lança une voix indéterminée.
Ils ont pas fait pouette-pouette non plus, les nibards de Steph, quand tu les as plottés?
C'était Madia. Bien envoyé. Je souriais sous mon duvet. L'éclat de rire fut général sous la tente. Trop général. J'entendis distinctement des bruits de pas dehors, les cailloux de l'allée. Les pas de Madia qui filaient dans le dortoir des filles. Puis, aussitôt, la lampe torche dans la figure de chacun des sept ados. Yo-Yo gueula.
« C'est pas bientôt fini, votre bordel? Ça va pas recommencer comme tous les soirs ?»«
Eh oh !» fit Johan. « On n'est plus des mômes, hein !»«
Montre-le alors, il y en a qui veulent dormir. Ça s'appelle le respect !»
Qui ça? Qui veut dormir? Insista Hugo.
Ce crétin de Yo-Yo braqua sa lampe torche sur moi.
Colin Rémy, par exemple?
Quel con, ce Yo-Yo. Je ne lui avais rien demandé. Il était encore en train de me mettre toute la tente à dos. Il insista en plus.
Il s'est couché à 9h parce qu'il était crevé. Déjà qu'à la voile, c'est pas drôle pour lui.
Mais quel con, ce Yo-Yo. Si je ne m'étais pas retenu, j'aurais surgi de mon duvet pour lui faire avaler sa torche. Patience. Dans mon silence de faux dormeur, je dominais la situation.
« Et nous, on a du boulot !» continua Yo-Yo. « On a la journée de demain à préparer, alors soyez sympas. Vous causez en silence !»
Nouvel éclat de rire dans la tente.
« Ok, Yo-Yo, on va causer en silence !»
insista Kevin. Yo-Yo finit par essayer de la jouer complice.
« Je vous fais confiance, les gars. On est crevés, nous aussi !»
Il y eut plusieurs « oui » ou « ok » compréhensifs. Yo-Yo devait être content. Il s'en sortait bien. Mais Armand remit le couvert.
La prochaine fois, ça peut pas être Stéphanie qui vient nous voir?
Yo-Yo enchaîna.
Elle peut pas, elle est déjà à poil.
Pas grave,
fit une voix anonyme. Armand reprit la main.
Soyez sympas, les gars. Laissez Yo-Yo aller retrouver Steph, il vous l'a dit. Ils ont du boulot, tous les deux.
Nouveau fou rire sous la tente. Yo-Yo finit par sortir furieux.
Si vous arrêtez pas votre bordel, c'est le père Duval qui va venir.
Pas un n'osa demander « à poil ?» Le père Duval, c'était un autre calibre. Même Madia et Armand rampaient devant lui. Il était quasiment impossible de prévoir ses réactions. Mais le bouche à oreille du camp évoquait des châtiments terribles. Le père Duval se déplaçait rarement. C'était presque toujours Yo-Yo qui s'y collait. Pour ma part, je participais peu à ses joutes verbales nocturnes. Mais j'appréciais. Sauf que ce soir, Yo-Yo m'avait foutu dans la merde. Une fois Yo-Yo parti, Madia poussa le rideau et revint dans le dortoir des gars. Elle fut la première à reprendre la parole. Plus doucement que tout à l'heure, chuchotant presque, comme pour ne pas me réveiller.
Il commence à nous faire chier, le fils à papa. Je la connais, cette race de faillot. Il y en a plein au foyer. Va falloir lui faire comprendre.
Elle parlait de moi. Ne rien répondre.
faire semblant de dormir, puis agir au bon moment. Petit à petit, ils se turent. Il y en avait toujours un pour tenter une dernière vanne, et quand alors personne ne répondait, c'est que c'était la fin. On entendait généralement un dernier « Hé, vous dormez !» plus chuchoté que parler, puis c'était terminé. Dodo tout le monde. De mon lit, j'entendais les respirations de plus en plus régulières. Il ne me restait qu'une poignée de jours dans ce camp. Thierry et Brigitte arrivaient samedi. Je voulais à tout prix retrouver mon père avant qu'il soit là. Ensuite, ce serait compliqué. Affronter le tabou, s'expliquer, les croire. Croire quoi? Il fallait agir avant. Je listais les questions auxquelles je devais répondre. Que faisait mon père sur l'île? Où habitait-il? Comment s'appelait-il aujourd'hui? Et surtout, pourquoi m'avait-on fait croire qu'il était mort depuis 10 ans? Il me fallait repartir de zéro, tout vérifier. Des noms et des lieux m'apparaissaient comme évidents. Téléphoner à Mamie Madeleine, retourner voir Martine, ma nourrice, si elle habitait toujours sur l'île. Visiter l'abbaye Saint-Antoine pour retrouver des informations sur ce fait divers il y a 10 ans et sur l'association de mon père. Peut-être trouver un journaliste de Lilien, ce quotidien local, dont le siège est à Saint-Argan. Il possédait sûrement des archives. Ce n'était pas le boulot qui allait me manquer, ni la détermination. Ce qui allait me manquer, c'était du temps. Les quartiers libres d'une heure et en groupe n'allaient pas suffire. Comment agir? Tout expliquer au père Duval ou à Yo-Yo? Autant aller directement tout raconter à Thierry ou Brigitte. À partir de ce moment-là, je ne pourrais plus faire un seul pas tranquille. En parler à Steph? Pourquoi pas? Mais ça me semblait tout de même trop risqué. Elle n'allait pas s'amuser à couvrir un mineur orphelin dans une telle histoire de fou. Fuguer? C'était bien sûr la solution. Mais pour faire mes recherches, il fallait que j'agisse à découvert dans des lieux publics. Fuguer pour me cacher ne servirait à rien. Et puis, fuguer sur une île? Non. La seule solution était simple, évidente. Mettre quelques copains dans le coup qui pourraient me couvrir en cas de besoin. Dès demain, j'allais quitter le camp aussitôt que je pourrais. Si un adulte me cherchait, mes complices me couvriraient. « Colin, il est sous le marabout en train de dormir. » Ou bien « Il est parti pisser, il revient. Je l'ai vu il y a 5 minutes, il est parti poster une lettre. Il est un peu plus loin dans le champ. Il lit, il voulait s'isoler. » Armand, évidemment, était le pote idéal pour ça. Il comprendrait. Il mentirait à merveille. Il avait l'imagination et l'aplomb nécessaires. Le seul problème, c'est qu'on était tellement toujours fourrés ensemble, tous les deux, qu'il ne pourrait pas me servir très longtemps de couverture crédible. Mon absence ferait rapidement très louche. Il me fallait un autre complice. Si possible, le moins con de la bande après Armand. Et plus courageux que lui pour avoir le cran de me défendre devant Yo-Yo et même le père Duval. Il fallait enfin que personne ne puisse se douter d'un deal entre ce complice et moi. Son nom s'imposa tout de suite comme une évidence. Madia. Sans aucun doute, Madi, la chef de meute, était la complice idéale. Restait à la convaincre. Il était 2 heures du matin. Accroupie près de son lit, je secouais Madia. Elle ouvrit un œil fatigué. « C'est vrai que tu sors avec Armand ?» Elle mit un certain temps à se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Juste au moment où elle allait attraper le col de mon t-shirt et sans doute me balancer les pires injures à la figure, je me reculais et répétais en chuchotant « C'est vrai que tu sors avec Armand ?» Par instinct, Madia chuchota aussi. « Tu me fais quoi, là ?»« Il paraît que tu sors avec Armand. Tu me réveilles pour me balancer une telle connerie ?» Elle s'était assise sur son lit. Elle me fit penser à un cobra qui se redresse avant de piquer. C'est pas une connerie, Armand me l'a dit. Il paraît que vous vous embrassez dans les chiottes. Et même plus que ça. Moi aussi, je vous ai vu. On sera 2 à confirmer. T'es un malade, grave. On va te tuer. Je m'assis sur son lit, sans lui demander la permission. Qui ça, on? Je crois que les autres, ça va plutôt les faire marrer que tu te tapes le petit poilu à lunettes. Tu les connais, les mecs. Et pire encore, les filles. Maddy et le gremlin. Et tu te doutes qu'Armand sait bien les alimenter, les ragots. Et moi aussi, tu verras. Il a de l'imagination, le fils à papa de la race des Fayots. Je laissai filer un court silence. Ton autorité va en prendre un sacré coup. Sans oublier ton copain, ton fameux copain qui t'attend. S'il apprend la rumeur.
Les yeux noirs lançaient des poignards. « Je sais pas à quoi tu joues, le fils à papa. Mais attends-moi, là, je me lève. Je vais chercher mon opinel. Je reviens et je te crève. »«
Ok, vas-y. Pendant ce temps-là, je pisse sur ton lit. »«
Qu'est-ce que t'as dit ?»«
Je crois que t'as bien compris. Je pisse sur ton lit. Ou j'attends demain matin, quand tout le monde sera à la douche. Ou en pleine nuit, pendant que tu dors. »
Madia ne comprenait toujours pas.
« T'es un pervers, c'est ça? Un putain de pervers? Dès ce matin, je réunis un jury populaire et on te fait ton affaire. Quand je vais tout raconter aux autres, je crois direct qu'on va te les couper. »
Je me forçais à lui sourire, sûr de moi. En apparence, du moins.
« Et tu penses qu'ils vont te croire? Que le fils à papa qui dort à poing fermé, c'est lui qui vient pisser sur ton lit? T'imagines qu'ils vont avaler ça? Ils vont peut-être faire semblant de te croire pour te faire plaisir, mais qu'est-ce qu'ils vont se foutre de toi dans ton dos? Madi la terreur, elle pisse au lit. »
Madi avait compris. Le cobra ramollissait façon polochon. Je devinais ce qu'elle pensait. Pas encore que tout le camp croit qu'elle ait pu embrasser Armand, mais rien ne pouvait lui arriver de pire que de se faire traiter de pisse au lit. Par derrière, de ne pas pouvoir se défendre. Tout ce qu'elle ferait pour argumenter, ses explications ou ses menaces, persuaderait encore un peu plus les autres qu'elle se faisait dessus dès qu'elle dormait.
« Je vais te tuer !»
affirma calmement Madia le cobra dans un dernier sursaut.
« Pas besoin des autres. Je vais te buter. »
Elle fit mine de se lever. Je posai ma main sur son épaule.
« Bouge pas. Sinon c'est moi qui fais du bruit et qui réveille les autres, avant de foncer dans mon lit. Et je reviens dans une heure, ou demain, ou après-demain. Tu vas pas pouvoir toujours me surveiller. Faut bien que tu dormes. »
Madia commença à me regarder autrement. C'est ce que je voulais. Elle décelait en moi une absence totale de peur. Elle devait savoir reconnaître ça, la détermination. Ça devait la surprendre de la découvrir chez moi, de la découvrir aujourd'hui.
« Qu'est-ce que tu veux? C'est parce que je t'ai traité? Non, je m'en fous. »
Je marquai un nouveau silence calculé.
« Il faut que tu m'aides, Madi. »
Elle me fixa, et je compris qu'elle me considérait comme un fou dangereux. Tant mieux.
Que je t'aide? Ouais.
Je lui balançai alors mon histoire, toute mon histoire. Cela prit une demi-heure. Elle semblait fatiguée, mais elle écouta tout, fascinée. À aucun moment elle ne mit en doute ma version, avec des questions du genre « T'es sûr que c'est bien ton père ?» À ses yeux, j'avais pris une autre dimension. Elle devait voir en moi quelque chose d'un peu mystique. J'avais l'impression que désormais je pourrais tout, absolument tout demander à Madi. Elle avait l'air maintenant fière que je l'ai choisie comme complice. Au moment où j'allais retourner dans mon lit, elle me glissa simplement.
« Ok, Colin, je te couvrirai. T'as bien fait de faire appel à moi. »
Et elle ajouta en se marrant.
« C'était pas la peine de me menacer de pisser sur mon lit. Et encore moins de raconter ces craques avec Armand. Tu t'en sors bien, »
répondis-je.
« Pendant un moment, j'avais pensé raconter que t'invitais des filles à jouer sous tes draps. Qui te dit que je l'ai pas fait ?